Donc maintenant, je vous propose qu'on présente les ateliers. Donc chaque équipe a 10 minutes et on finira à midi 10 au lieu de midi, ça devrait aller. Donc c'est d'abord l'équipe de Montpellier.
Bien. Bonjour. Et Françoise avait dit qu'elle serait stricte sur le temps. Je l'ai autorisée à couper. Attention. Vertigineusement et sévèrement, sachant qu'on a le temps après de développer dans les ateliers. Voilà. Mais peut-être en introduction de ce que je voudrais dire, je voudrais quand même continuer un tout petit peu la discussion, à savoir qu'il me semble que nous sommes ici, les chercheurs notamment, dans des postures de recherche, j'allais dire idéologiquement tout à fait précises. Il me semble que et des positions par rapport à la formation et l'enseignement qui sont tout à fait réalisables, réalistes, pas utopiques, qui est ce souci véritable de faire que nos travaux contribuent à transformer les pratiques enseignantes, à les accompagner, à les aider. Voilà. Et donc, il me semble que là, il y a une posture de recherche tout à fait... j'allais dire audacieuse, parce qu'elle n'est pas forcément partagée dans la communauté scientifique. Hein, il y a des prises de risque de notre part, et il faut le redire à chaque fois. D'une autre façon, je voulais dire que par rapport à la morosité ambiante, par rapport aux obstacles que nous vivons aujourd'hui, par rapport à cette journée d'aujourd'hui, il faut réaffirmer, et je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que c'est dur, beaucoup d'optimisme. On ne peut pas être des éducateurs, des formateurs, sans optimisme. On ne peut pas être des éducateurs sans croire à la culture. On ne peut pas être des chercheurs sans croire à l'intelligence. Alors nous avons devant nous un mur de sottises et d'imbécilité noire qui nous déstabilise. Et je pense qu'il faut que nous fassions très attention à où sont nos fondements, où sont nos valeurs, où sont nos pilotes. Nos pilotes, c'est dans le credo de l'intelligence collective, c'est dans le credo de la culture, c'est dans le credo des possibles de l'évolution des enfants, c'est dans le credo de l'évolution des possibles des élèves. Et aujourd'hui, la journée est difficile. On l'a senti, et le discours de Christine a bien posé les questions, mais je crois qu'il faut repartir de là. Si je suis là ce matin et non pas dans la rue, c'est parce que je crois à ça. Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Produire notre place ici et ce que je vais vous proposer rapidement. Ça veut dire que la recherche produit des ressources. La recherche produit des ressources théoriques. C'est son boulot de produire des savoirs, des connaissances. Et les ressources théoriques que nous avons produites dans nos différentes équipes de recherche, vous le verrez, sont très complémentaires, avec des angles différents. Mais les ressources que nous produisons, elles sont là pour instrumenter, pour aider la pensée sur l'action enseignante, sur l'action dans la classe ou sur l'action hors la classe, comme vous le verrez, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que la formation progresse, si on veut que les pratiques se transforment, s'ajustent, s'adaptent aux nouveaux enjeux, il faut apporter des savoirs. On ne peut pas se transformer sans rien, magiquement, simplement parce qu'on se regarde le nombril. Voilà. Il y a indiscutablement, pour transformer les pratiques, il y a besoin de savoirs. Et notre boulot à nous, c'est de construire un certain nombre de savoirs. Deuxièmement, il me semble que notre travail, l'originalité de notre travail, c'est de nous appuyer sur les ressources du collectif enseignant ou du collectif professionnel. Le collectif enseignant et le collectif professionnel a produit de nombreuses ressources. Il y a une intelligence et une culture dans les ZEP et ailleurs considérables. Et la question, c'est non seulement de sauvegarder ce patrimoine, mais bien évidemment de le questionner, de l'interroger. Et donc de s'appuyer sur ces ressources pour les questionner, les développer, les transformer. Voilà, ça c'est la deuxième question. Et il me semble que c'est la deuxième nature de ce travail. Et le travail sur l'atelier qu'on vous présente, c'est effectivement dans cet esprit-là que des ateliers existaient à l'école maternelle, ils ont été repris à l'école primaire. Il y a une ressource fabuleuse que nous avons questionnée, interrogée, et nous avons essayé de voir ce que ça pouvait donner, et on va vous le présenter un petit peu en testant ce que ça donne au collège. Et troisièmement, Il me semble que notre travail, et c'est l'enjeu de la journée, c'est de produire des ressources nouvelles pour la formation et la transformation. Et en quelque sorte, vous le savez, les ateliers qui vont être mis en place cet après-midi et demain, ils sont là aussi à questionner comme instrument pour des transformations potentielles. Hein. Et donc il va falloir dans la table ronde qu'on re-questionne ces ateliers. Mais en même temps, vous le verrez au travers des ateliers que nous proposons, une des ressources que nous proposons tous les uns et les autres, c'est dans le fond des dispositifs de recherche, action, formation avec les enseignants. Alors l'atelier qu'on va vous proposer, il me semble qu'il va dans cet esprit-là. Voilà un petit peu l'esprit. Alors le contexte de la recherche, ce sont les travaux de notre laboratoire, le LIRDEF, qui a beaucoup travaillé sur l'agir enseignant dans la classe et qui aujourd'hui s'interroge très très précisément la question qu'on a de recherche que nous avons, c'est qu'est-ce qu'il y a comme relation entre les gestes professionnels et postures des enseignants que nous avons décrits et définis, avec une modélisation, je ne vais pas vous la développer ici, évidemment, mais avec ces gestes professionnels et postures des enseignants, avec les gestes d'études et postures des élèves, pour la construite de savoirs spécifiques. Ce n'est pas posture à posture, mais c'est des postures ou des gestes pour fabriquer, pour conduire des savoirs spécifiques. Et notre objet de travail est limité au sens où on est dans l'ordinaire de la classe. Voilà, pour vous situer l'enjeu des questions que nous nous posons. Alors, nous avons produit des ressources théoriques, je ne les développe pas, une modélisation de l'agir enseignant. Nous avons produit des ressources théoriques, on en discutera plus loin, sur les postures d'apprentissage des élèves, c'est des travaux anciens. Et nous avons produit aussi des... Je ne sais pas où c'est, j'ai perdu... une théorisation des postures de l'enseignant et la question est donc de voir qu'est-ce qui entre les postures de l'enseignant et les postures des élèves, est-ce qu'il y a des convergences, est-ce qu'il y a une manière d'améliorer l'efficience de la coactivité du maître et des élèves en regardant de très près ce qui se fait au travers des langages, des tâches et des savoirs mobilisés. Bon. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons de façon forte, l'hypothèse théorique, c'est que le rapport au savoir des élèves, dont on a dit qu'ils étaient dans les établissements ZEB, mais ailleurs aussi, il n'est pas forcément favorable au développement des apprentissages, nous pensons que le rapport au savoir des élèves se manifeste dans leur posture de travail, dans leur manière d'aborder les tâches. Première hypothèse, donc regardons de très près leur manière d'aborder les tâches. Deuxième hypothèse forte, celle-ci, c'est que les gestes d'étude des élèves, que ce soit des gestes cognitifs hein, pour comprendre quelque chose, pour aller chercher une référence en mathématiques ou en français, ou les gestes sociaux, que ce soit discuter avec son collègue, poser une question, interroger l'enseignant, ce sont des gestes d'étude qui s'enseignent. Et notre hypothèse, c'est qu'ils sont sous-enseignés, ces gestes d'étude. Et ils requièrent des postures enseignantes et des tâches ou des formes scolaires spécifiques. Nous faisons l'hypothèse que dans l'atelier que nous essaierons de vous travailler, il y a un lieu privilégié pour ces apprentissages fondamentaux de postures d'apprentissage ou de gestes d'études spécifiques des élèves. Bon, donc c'est sur cette hypothèse que nous travaillons. Alors, très très succinctement... Hein, pourquoi travailler sur l'atelier? Alors, pour plusieurs raisons, j'allais dire de manière à la fois double. Pour la recherche, il se trouve que l'atelier dirigé, c'est un lieu, c'est une sorte de mini-classe en quelque sorte, où l'enseignant est avec 5 ou 6 élèves en extrême proximité. Sur le plan de la recherche, ça nous a permis de voir et de comprendre tout un tas de choses, parce que précisément, on était dans un petit lieu réduit où on pouvait comprendre plein de choses. Mais en même temps, cet instrument de recherche pourrait se transformer en instrument pédagogique. Pourquoi ? Parce que ce sont les hypothèses qu'on va vous montrer avec des corpus. Parce que du coup, c'est le lieu où l'enseignant peut voir l'extrême hétérogénéité des élèves, mais en même temps leur singularité. Il découvre que ces élèves sont des personnes singulières, différentes, hétérogènes, etc. C'est deuxièmement, la deuxième hypothèse, c'est un observatoire où l'enseignant découvre souvent ou redécouvre qu'il y a des obstacles didactiques qu'il n'avait pas perçus, brusquement, qui lui apparaissent là dans l'extrême proximité des tâtonnements, hésitations des élèves. Et donc, du coup, cet atelier devrait permettre, avec tous les conditionnels, un étayage de grande proximité. Alors, est-ce que ces hypothèses sont justes? Et devrait permettre aussi une sollicitation, alors, la dimension tout à fait didactique, de gestes d'études. En grande section, CP, 6e, français, maths, etc., ce ne sont pas les mêmes, spécifiques, de la discipline enseignée, mais en même temps des gestes sociaux qui sont probablement transdisciplinaires, construire un rapport aux autres dans la construction du savoir, et on a tout l'arrière-plan socio-constructiviste derrière. Alors, les questions de recherche pour la conduite des ateliers dirigés, nous sommes dans recherche-action, hein. Nous avons beaucoup travaillé sur les ateliers d'écriture au CP pour comprendre ce qui s'y passait. Est-ce que c'était un lieu qui pourrait favoriser l'entrée dans les apprentissages plus rapides du lire-écrire? Je sens que tu vas me couper, mais j'ai fini. Nous avons essayé en recherche-action de voir si le dispositif fonctionnait en collège. Et donc, c'est sur nos premiers essais en collège. En mathématiques et en français, mais on va vous proposer des corpus de mathématiques avec plein de questions que vous avez écrites, mais qu'on reprendra tranquillement. Voilà. Donc, ce qu'on vous présentera, c'est des vidéos avec le principe de la comparaison, un même enseignant en troisième et en sixième, dans le même établissement, dans la même discipline. Et puis, on vous invitera à réfléchir sur les enjeux, les dérives, les limites, voilà, voilà un petit peu ce que... Donc, dans le fond, on vous présente aujourd'hui une recherche-action qui a lieu dans le contexte de la classe ordinaire, avec Michel Lacage qui est professeur référent, et c'est dans le cadre de la tâche de prof référent que nous avons été amenés à proposer et à travailler ce dispositif qui est largement en cours et... à l'essai, j'allais dire. Voilà.
Merci.
J'ai fini. Je sors.
Super. On a bien
fini. J'ai tenu le temps.
Super.
Bon.
Donc maintenant, c'est Luc.
Tu passes au tableau.
Voilà. 10 minutes au tableau.
Est-ce que je peux enlever ma clé comme ça?
Tu n'as pas de PowerPoint?
Oh.
On fait comme on veut.
Ah. J'ai fait quelque chose, j'ai dû faire autre chose. Je te laisse le truc.
Alors, simplement quelques instants pour présenter l'atelier numéro 2 qui s'intitule « Travailler à plusieurs ». Et comme c'est le cas, nous avons travaillé à plusieurs, mais de façon un peu indépendante. On va vous expliquer la formule, mais vous l'avez comprise, cette formule. Je vais quand même dire quelques mots sur... Ce travail de recherche initié depuis quelques années. Tu fais les mises à jour à ce temps-là?
Non, j'essaie de... Pour que ça ne trouble pas les gens derrière toi, je voudrais mettre en veille. Voilà.
Merci.
C'est tout, pour que vous ne soyez pas troublés.
Alors, depuis quelques années, je recueille, et notamment avec Patrick Rayou, des matériaux dans les réseaux en mission en réussite. Nous avons travaillé sur Jules Vallès, sur Iqbal Massi, sur Garcia Lorca et d'autres. Nous avons ici des informatrices qui représentent ces établissements-là. Donc, dans un premier temps, c'est de recueillir ces matériaux sur de l'activité ordinaire, pour moi, à des fins de formation. C'est-à-dire ici, on essaye de comprendre, de rendre intelligible cette activité pour la modéliser, pour dépasser le sens commun, rendre intelligible ce qui peut échapper en partie aux acteurs, c'est-à-dire aux travailleurs qui, pris au quotidien dans leur classe, n'ont pas forcément fait ce travail de compréhension et de modélisation. Donc c'est vraiment pour nous, et en tout cas pour moi, pour préparer les jeunes enseignants à leur horizon professionnel. Donc à partir de ces traces de l'activité, de ces traces vidéo généralement, l'exercice aujourd'hui, c'est de pouvoir les autonomiser. J'ai été assez longtemps rétif par rapport à ça, puisque venant avec des contrats de recherche, venant avec des autorisations par rapport au droit à l'image, par rapport à un respect, et là-dessus je suis très vigilant, un respect pointilliste de ces autorisations-là, j'ai mis du temps à accepter que certaines vidéos passent... Françoise a fait ce travail-là et elle a mis du temps, hein, de façon très diplomatique, pour qu'on puisse commencer à autonomiser un peu les ressources et qu'on puisse voir... comment des ressources travaillées par d'autres, avec d'autres intelligibilités, pouvaient être exploitées pour la plupart et de façon différente. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Je suis moi-même maintenant assez passionné par ce sujet-là. Donc c'est Christine Ménard qui est ici, hein, qui s'est présentée tout à l'heure déjà, qui va, pendant la première partie, qui a travaillé, qui a découpé mes propres matériaux, et qui vous propose un certain nombre d'angles de vue, de points choisis a priori, avec des tensions, avec peut-être des vidéos qui vont peut-être aussi porter à discussion. Et elle va vous faire réagir par rapport à cette activité ordinaire de travail à plusieurs, c'est-à-dire de co-intervention. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, hein. Je vais laisser Christine ensuite dévoiler sa méthodologie, ses difficultés, parce qu'il a fallu qu'elle fasse ce travail de découpage d'un corpus pour un atelier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les scénarios de formation que cela va générer, les réactions que vous allez avoir également par rapport à ce type de travail. Ensuite, au niveau du... Là, je reste très chronologique, hein, dans ma présentation. J'essaierai de faire ensuite une sorte de synthèse par rapport au travail à plusieurs pour essayer d'envisager une typologie de la coprésence en classe. J'insisterai dans un premier temps sur des phases initiales que nous avons, sur lesquelles nous nous sommes penchés avec Patrick Rayoux, sur de la co-observation. C'est bien une co-présence en classe, ce n'est pas de la co-intervention. Et il nous semble qu'il y a des pistes tout à fait intéressantes, on l'a déjà présenté à de nombreuses occasions, des pistes dans la mutualisation, dans la prise de conscience collective et dans le début, dans la jeunesse peut-être d'un travail à plusieurs. On verra ensuite une autre étape de la co-intervention entre pairs. On pourra discuter cette co-intervention entre pairs par rapport au matériau que va nous proposer Christine, qui correspond à de la co-intervention entre une néo-titulaire, une titulaire deuxième année, et une professeure référente. Donc là aussi, changement de statut. C'est aussi intéressant de voir les biais, les difficultés, voir les ressources proposées par ces interactions avec deux personnes de registres différents, avec peut-être une asymétrie en termes de fonction et de rôle. On pourra également s'intéresser à la co-analyse, qui est aussi une autre phase possible, où des personnes interviennent de façon indépendante, mais organisent, mobilisent parfois la recherche, organisent éventuellement donc une sorte de recherche-action pour qu'il y ait une réflexion collective se déployant sur les traces des activités individuelles. Ceci, par exemple, dans le cadre d'un projet collectif dans une même discipline, par exemple, de mise en place du socle commun en français. Et nous avons, avec Françoise Caro, recueilli un certain nombre de traces vidéo également de cette activité de co-analyse qui favorise quand même le développement d'une équipe disciplinaire. Donc de la co-observation à ces co-présences, donc de la co-intervention, mais aussi de la co-analyse, il me semble que ce sont autant de moments privilégiés où l'activité va être déployée, réinterrogée. Tu disais tout à l'heure, rendre des comptes pour prendre conscience, en tout cas hein, pour se rendre compte. Je crois que ce sont des moments assez intéressants et on pourra, au bout de cette chaîne, me semble-t-il, réinterroger ou commencer à interroger le compagnonnage des jeunes enseignants. Parce que là aussi, entre ces différents dispositifs, il y a des pistes assez intéressantes pour pouvoir aider ces enseignants dans leurs futurs établissements. Et j'aimerais qu'on puisse aussi avoir une discussion collective sur ce point-là. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, hein. C'est un peu le menu qui est un menu ouvert par rapport à cet atelier numéro 2, avec plein de pistes sur le développement professionnel et sur tous les bénéfices de ce travail à plusieurs. J'en reste là.
Bien, je n'ai pas commencé par dire que je serai bref, parce qu'en général c'est mauvais signe, mais je vais quand même essayer de l'être. Donc l'atelier dans lequel je vais sévir pendant ces deux jours, c'est accompagner le travail personnel avec ces deux modalités aujourd'hui à la mode, hein, qui est qu'à la fois on accompagne et qu'à la fois c'est le travail personnel, donc sur lesquels il y aura à s'expliquer. puisque un de nos points de vue, c'est qu'il y a des allants de soi aujourd'hui de l'éducation, mais qui ne sont pas forcément à prendre tel quel. Et bien évidemment, le point de vue de recherche, c'est d'essayer de problématiser ça. Néanmoins, de ne pas camper sur un aventin, mais de se dire que puisque c'est ça qui sont les pratiques dominantes dans l'enseignement, alors il faut faire avec et essayer de former les personnes à s'acquitter le mieux possible des tâches qui leur sont dévolues. Première précision, cet atelier sera animé, la présentation sera faite par Janine Rajtat. Dans la division du travail, si je puis dire, qui a été présentée tout à l'heure, il y a donc des chercheurs et des formateurs. Dans le cas de Janine, c'est pas exactement la même chose, puisque donc nous travaillions à l'époque ensemble à l'IFM de Créteil, et Janine a fait partie, avant même cette recherche, d'une recherche collaborative sur le travail hors la classe des élèves. Je dois me dire que moi j'ai beaucoup d'intérêt pour ces recherches collaboratives, parce que les formateurs apportent évidemment beaucoup. On espère aussi que la recherche apporte aux formateurs et à la formation. Et j'espère que puisqu'on en est aussi un peu aujourd'hui au vœu, que dans le passage des UFM au statut d'école intégrée, ces recherches collaboratives ne se perdront pas. Là où elles existaient, bien sûr. Et de la même manière, on sait que le statut toujours précaire de ce malheureux INRP, à nouveau secoué aujourd'hui par des redéfinitions, ne fera pas perdre ce qu'a été l'immense richesse, de mon point de vue, de ce qu'ont été les enseignants associés. Personnellement, je suis venu à la recherche comme ça. Je trouve qu'il y a là des gisements considérables et que s'ils étaient taris, les possibilités de faire ce qu'on fait aujourd'hui, à mon avis, seraient considérablement amoindries. Puisqu'on voit rarement des chercheurs seuls, je veux dire, se venir sur les terrains de la formation et essayer de réfléchir en termes de transformation de matériaux de recherche en matériaux de formation. Donc voilà, la division du travail sera là relativement artificielle, puisque Janine a participé à ces recherches. La première, donc, qui ne concerne pas ambition réussite, était sur le travail hors la classe des élèves. Nous pensons qu'il y a, avec le travail hors la classe des élèves, un gigantesque point noir de l'éducation. Un point noir qui crée des différenciations considérables dans les acquisitions des élèves. Point noir qui est rarement interrogé en tant que tel. La plupart des différents acteurs de ce processus du travail hors la classe, même s'ils ne sont pas convaincus ni de son équité ni de son efficacité, néanmoins en donnent, en prescrivent, en font, en accompagnent, sans qu'il y ait des interrogations, je dirais, un peu centrales sur cette question-là. Donc voilà, il y a quelque chose qui nous paraissait un bel objet. Et une fois que cette recherche a été terminée, bien, l'appel d'offres de l'INRP émis par le Centre Alain Savary est passé. Nous nous sommes dit avec Janine que nous pourrions apporter notre petit caillou, éventuellement notre pierre, à cette question des aspects émergents dans le réseau ambition-réussite, en nous demandant ce qui se passait lorsque dans un collège ambition-réussite, les collègues qui avaient en charge le dispositif essayaient de mettre en place une aide aux devoirs locale. Tout cela pour dire que notre recherche, elle part de cette constatation que, historiquement, on a de plus en plus externalisé le travail des élèves. Externaliser, ça veut dire d'une part reléguer à la périphérie de l'établissement, voire à l'extérieur. Et externaliser, c'est-à-dire aussi sous-traiter l'accompagnement de ce travail. Or, précisément, que se passe-t-il quand, de manière volontariste, une équipe à l'intérieur d'un établissement décide de réinternaliser ce travail? Est-ce qu'il suffit de décider de réinternaliser pour qu'on n'ait pas des externalisations internes, si vous me suivez toujours? C'est un peu ce que nous essayons de regarder, et vous verrez les types de réponses un peu normandes, évidemment, que nous apportons à cette question. D'abord parce que nous n'avons pas un échantillon suffisant pour être capable de légiférer, si je puis dire, en la matière. Néanmoins, il nous semble voir des orientations. Et donc, à l'intérieur de ce dispositif, ce que nous essaierons de vous montrer, d'une manière totalement ringarde que j'assume aujourd'hui, parce que ça sera sur du papier, des textes vraiment, qui seront des textes d'une transcription que nous avons faite d'une séance d'aide aux devoirs à laquelle nous avons participé. Nous avons participé à beaucoup de séances d'aide aux devoirs dans cet établissement, en essayant d'être surtout observateurs, en nous faisant progressivement oublier, À tel point d'ailleurs que les élèves nous tiraient par la manche pour qu'on leur fasse leurs devoirs. C'était avant faitmesdevoirs.com. Hein, je veux dire, ça s'est beaucoup modernisé depuis, même si ça a été éphémère, mais ça reviendra. Ce qui montre bien l'importance sociale de cette question. Donc nous avons beaucoup observé, et le cas que nous vous présenterons est celui de la tentative d'aide à laquelle procède une jeune assistante pédagogique qui n'a pas eu du tout une formation d'enseignante, ni une formation à l'intérieur de l'enseignement, je dirais. Et alors, ce qu'il faudra, je le précise, c'est que notre propos ne se veut pas dénonciatoire, peut-être qu'il le sera néanmoins, mais il ne se veut pas tel. Le fait d'avoir focalisé sur une personne novice, et qui donc va ramasser toutes sortes de questions auxquelles, manifestement, elle ne peut pas faire face, a pour nous l'intérêt d'avoir quelqu'un qui y va avec sa personne, si vous voulez, et qui, du coup, est assez révélatrice de ce que ça demande, pour essayer de parler dans les termes de Christine précédemment, qu'est-ce que ça demande d'essayer d'aider des élèves, qu'est-ce que ça demande de les accompagner. Donc, avec une personne un peu novice, finalement, ça nous paraît assez intéressant de voir les tensions qui vont se manifester, les contraintes, éventuellement les ressources qu'elle va trouver. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, c'est même pas tellement intéressant. Je crois que l'intérêt de la chose, c'est de déplier à la fois les contraintes de la situation et à la fois la palette des ressources que l'on voit et éventuellement la palette des ressources dont on imagine qu'elles seraient pertinentes, même si elles ne sont pas présentes dans la situation. Et au fond, à travers ce cas peut-être un peu anecdotique, un peu limite, parce qu'il n'y a pas que les assistants pédagogiques qui aident dans ce genre de dispositif et de manière générale qui accompagnent les élèves. À travers ce cas un peu anecdotique, il nous paraît qu'on voit se déplier toute la question de la sous-traitance, toute la question de la division du travail éducatif, avec ses aspects en effet de sous-traitance d'un côté, avec ses aspects de dévolution du sale boulot, pour emprunter ce concept aux interactionnistes, qui fait que dans toute activité humaine, il y a des tâches qui sont jugées plus ou moins nobles, plus ou moins ignobles, et que donc on va les dévoluer à des personnes plutôt qu'à d'autres. Et ça nous paraît intéressant de regarder ce que ça demande, non pas à travers les statuts, qui eux préexistent aux situations, même si aujourd'hui il ne les cadre plus vraiment, mais à travers les véritables exigences de ce travail d'accompagnement. Donc voilà ce qu'on voudrait vous proposer comme réflexion. Il y a des transactions qui sont à l'œuvre entre les acteurs, mais à l'intérieur des acteurs eux-mêmes. Et au fond, notre assistante pédagogique, un peu martyre en l'occurrence, elle est sans doute le siège de tensions et de types d'aide complémentaires ou parfois en tension, hein, parfois contradictoires, que l'on peut être amené à apporter dans ce genre de situation. Pour ne pas frustrer tous nos estomacs, et je vais tenir vraiment dans le temps, et peut-être même un peu avant, vous allez dire qu'il ne faut pas, il faut aussi que soit, ça a déjà été dit, mais je le rappelle, notre exercice est un peu à double détente. Il s'agit d'une part de proposer un dispositif de recherche et éventuellement des résultats de recherche, mais aussi de travailler avec vous sur cette question extrêmement difficile qui est celle de la diffusion de la recherche, de l'appropriation de la recherche. Et donc le dispositif est à double détente, hein. Vous nous servez aussi dans un regard second à regarder comment ce matériau vous parle, qu'est-ce qu'on peut en faire afin pour nous de le retravailler, hein, puisque le risque considérable que nous prenons en sortant du confort habituel des colloques entre spécialistes qui peuvent se détester par ailleurs, mais néanmoins forment une communauté tout à fait soudée avec des objectifs uniques. C'est comme le dit Bruno Latour, hein, on déteste les collègues, mais on en a absolument besoin, sinon on n'existe pas universitairement. Donc là, on sort de ce cercle inquiétant, rassurant, pour se livrer à un exercice peut-être encore plus périlleux, qui est-ce que ça devient lettre morte, le matériau qu'on donne, est-ce que ça peut encore féconder le jour où on sera plus là pour le commenter, même si on espère être là relativement longtemps, et est-ce que, malgré toutes les trahisons, traductions, etc., qui sont inhérentes au genre, il en reste le nerf de la recherche, sans lequel, de notre point de vue, sinon on serait pas là, il peut pas y avoir de véritable formation, en particulier dans les temps troublés que nous traversons. Voilà, je rends le micro, l'horaire, le resto, les tickets, tout ce qui va avec, à Françoise. Merci.
Bravo, bravo. Merci. Alors là, vous avez tous été impeccables, formidables. Alors j'ai trois informations pratiques à vous donner avant de vous lâcher. Déjà, vous allez tous aller dans tous les ateliers. Hein. Donc cet après-midi, nous reprenons à 13h30. Vous avez un premier temps d'atelier de 13h30 à 15h30, une pause, et un second temps d'atelier et un autre demain matin. Vu le nombre que vous êtes, on n'a pas fait de liste au départ. Vous allez vous répartir comme vous le souhaitez. On va essayer d'équilibrer, donc d'être entre 8 et 10 par atelier, surtout pas plus de 10 dans un atelier, sinon ça veut dire que dans un autre, il y aura très peu de monde. Et ce seront les mêmes groupes qui tourneront. Hein, donc vous allez rester par groupe cet après-midi et demain matin. Voici la première information pratique. Et les ateliers vont se dérouler dans les salles au rez-de-chaussée ici à la suite. Pour le déjeuner, donc nous sommes désolés, mais nous n'avons pas d'infrastructure permettant de vous faire déjeuner ici. Donc c'est à votre discrétion dans le quartier. Il y a des plans de resto, etc. Donc ça, c'est la deuxième information. Et la troisième information, c'est par rapport au projet EuroPEP dont on vous a parlé ce matin, donc de comparaison des politiques d'éducation prioritaire en Europe. Il y a justement aujourd'hui un mercredi de la bibliothèque, donc qui se déroule à la bibliothèque de l'INRP à 16h30 avec deux intervenants sur ce projet qui présenteront ça. Donc je vous invite vivement à y aller. C'est ouvert. C'est 18h30, oui. Je me suis trompée. Ah, pardon. Non, 18h30. C'est à 18h30 et donc c'est Daniel Frangy et Jean-Yves Rochex qui interviennent pour présenter les premiers résultats de cette enquête et de ce travail.